le plateau qui parle. Deuxième partie de l'interview de Vincent Magnet qui a travaillé sur l'eau pendant 6 ans au Parc Naturel. Il nous donne sa vision de la ressource en eau. Au-delà de l'image d'Épinal d'un plateau de mille vaches château d'eau de la France, il existe des tensions sur la qualité et la quantité d'eau ici aussi. Dans certains captages, déjà, l'eau n'est pas propre à la consommation. Avec les grandes quantités de pluie qui tombent, le plateau reçoit les pollutions qui viennent de partout. Vincent Magnet.
Les éleveurs ont souvent du mal à l'entendre, mais pourtant c'est manifeste. Comme on a de nombreux cours d'eau, les bovins sont souvent proches des cours d'eau, et les bovins vont dégrader les berges et les abords du cours d'eau. Et donc on va avoir un envoi assez généralisé de sable, de boue dans le cours d'eau, qui va là aussi avoir un effet asphyxiant pour le cours d'eau et qui va lui limiter la vie.
Il y a des éleveurs qui disent « mais on a toujours fait comme ça, il y a un siècle, il y a 50 ans, les bêtes allaient s'abreuver au ruisseau et ça posait pas de problème dans le temps ».
Effectivement, ils peuvent dire ça, sauf qu'ils ne peuvent pas dire que le nombre de bêtes n'a pas augmenté. Et ils ne peuvent pas dire que les pratiques n'ont pas changé. Il y a 50 ans, il y avait beaucoup plus de main-d'œuvre agricole pour s'occuper des bêtes. Donc déjà, les bêtes étaient moins laissées à elles-mêmes, moins assez libres de divaguer. On avait des parcelles et des exploitations plus petites. Et les vaches, comme elles étaient moins nombreuses, on avait plus tendance à les faire revenir à l'étable. Plus on a des systèmes où on a un nombre de vaches qui augmente, plus on a tendance à les laisser longtemps à l'extérieur. Et comme de toute façon, on essaye pour vivre, hein, parce que la question pour les éleveurs, c'est ça, c'est d'arriver à vivre sous les contraintes de la politique agricole commune. Plus ça va, plus on a de vaches, et donc ces vaches ont elles-mêmes plus d'impact sur le milieu. Évidemment, on a tendance toujours à pointer l'agriculture du doigt parce que c'est ce qui se voit. On voit facilement les agriculteurs travailler, on voit facilement ce qu'ils font, on voit facilement les bêtes. Pour autant, il peut se passer des choses aussi, voire plus graves, en forêt. Et là, en forêt, on le voit beaucoup moins, parce que c'est caché, et que des chantiers catastrophiques, on en voit régulièrement pour l'exploitation forestière, qui peut d'ailleurs avoir des incidences fortes, y compris sur les agriculteurs. On a eu un cas récent à la Vidieu, où les éleveurs ont été obligés d'enlever leurs bêtes des cours d'eau du fait d'une pollution d'origine exploitation forestière. Et donc on voit bien que la protection de la ressource en eau, ça concerne tout le monde. Et à partir du moment où tout le monde joue le jeu, ben, tout le monde en tire un bénéfice. Si tout le monde ne joue pas le jeu, les incidences peuvent être en cascade. Et après, en plus, on rentre dans la guerre des villages, chacun tirant un boulet rouge sur son voisin, ce qui ne va pas forcément aider à une bonne préservation de la ressource, quoi. Donc le but est d'essayer d'éviter que des tensions fortes arrivent. Sur 1000 vaches, on a pas encore identifié des tensions très fortes entre acteurs, mais elles pourraient venir. On est aussi dans des modèles où, que ce soit l'agriculture, la forêt, le tourisme, tout ça, tout va vers un développement toujours plus grand et une intensification toujours plus grande. Et si on parle un peu quantité, on sait aussi que des territoires comme mille vaches pourraient être demain plus contraints du point de vue des quantités d'eau qui tombent sur notre territoire. On a des sols et des roches qui stockent peu, donc s'il tombe moins d'eau sur notre territoire, on sera beaucoup plus vulnérable à la sécheresse. Et ça, c'est aussi un paramètre qu'il faut que les acteurs locaux comprennent, c'est qu'il faut dès maintenant travailler pour un peu s'affranchir d'éventuels problèmes de sécheresse qui peuvent vraiment survenir dans les 30-40 prochaines années, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait qui économisent l'eau.
Il faut que tout le monde se dise que même si à certaines périodes sur 1000 vaches, c'est vrai que l'eau est omniprésente et là on sort d'une période très très humide de l'hiver, à d'autres moments on peut être sur des situations de sécheresse ou de quasi-sécheresse. On l'a connu en 2011, il n'a pas plu entre la mi-janvier et la mi-juillet. Sur notre territoire, c'est quelque chose qui est très difficile parce que les sols sableux sèchent très très vite. Dans les décennies qui viennent, il va falloir que les acteurs, donc à la fois agricoles, forestiers, touristiques, les communes, tout le monde essaye d'avancer pour utiliser mieux l'eau et pour moins la gaspiller, pour essayer d'être moins vulnérable en cas de sécheresse, quoi. Ça veut dire, par exemple, pour les communes, améliorer leur réseau d'eau potable pour avoir moins de fuites. Pour le particulier, être conscient qu'à certaines périodes, et en particulier pour le touriste qui a moins l'habitude d'ici, on peut être restreint du point de vue de la quantité d'eau et que pour le développement de certains équipements touristiques, ça peut aussi être contraignant. Et puis pour l'agriculture, bah, ça nécessite aussi de dire qu'il y a certains modèles d'agriculture qui sont peut-être pas adaptés sur notre territoire. Que quand on a besoin de dizaines de milliers de mètres cubes d'eau pour des élevages bovins, porcins ou d'autres, à certains endroits, ça pourra être compliqué. Et on a eu déjà des cas, si ça vient prélever sur les réseaux d'eau potable, en période de sécheresse, ça fonctionne pas. On peut plus se permettre ça. Tout à l'heure, je parlais de 1500 mm, 1400, 1500 mm qui tombent annuellement sur les territoires. On sait aujourd'hui qu'il est possible qu'en 2070, on tombe à 900, 1000 mm par an. Ça peut paraître encore beaucoup, mais c'est une baisse significative et ça peut indiquer aussi une évolution assez néfaste dans la répartition de ces pluviométries, quoi.
Comment ça peut se passer, cette prévention, ces changements de comportement ? Est-ce que c'est de la contrainte qu'il faut ?
C'est un ensemble de choses. Je pense que déjà, on est dans un mouvement global où plus ça va, plus les gens prennent conscience de ce genre de problématiques, de situations. Et l'eau, ça frappe quand même pas mal les esprits. Par exemple, j'ai l'impression que ça parle plus aux gens que la biodiversité, même si les deux sont liés. Après, il faut effectivement essayer de faire comprendre aux gens que un peu plus d'encadrement global des activités, c'est bénéfique à tout le monde et que tout le monde a à y gagner globalement. Mais ça, c'est vrai que par rapport au pouvoir économique en place, c'est toujours très compliqué à faire comprendre, et surtout dans la logique actuelle où on est dans toujours plus de déréglementation, toujours plus de liberté individuelle. Gérer l'eau, ça se fait pas en un coup de cuillère à peau. Quand on travaille pour la ressource en eau, c'est sur plusieurs décennies, 20 ans, 30 ans, pour avoir des résultats. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, à Munich. Et que, du coup, ça nécessite des mesures qui sont quand même significatives, qui sont fortes et qui doivent être à la fois comprises, intégrées et acceptées. Et c'est vrai que je ne crois pas uniquement à la fonction réglementaire. Elle a montré aujourd'hui vraiment déjà toutes ses limites. La directive cadre eau, qui est un texte européen qui allait très loin pour la préservation de l'eau, est globalement assez mal perçue, en particulier par la profession agricole. Elle a probablement été assez mal expliquée. Et aujourd'hui, on a un refus de ça, notamment cette profession-là.
Tu as pris l'exemple de Munich ?
Ouais, j'ai pris l'exemple de Munich parce que c'est un des plus connus, mais en France, on pourrait en trouver d'autres. Dans la région de Munich, ils ont créé un service d'eau potable, très nombreux en personne et très efficace, avec une politique assez ferme, à l'échelle de tout le périmètre des captages de la ville de Munich. Et ils ont fait des acquisitions foncières, ils ont proposé des aides aux agriculteurs pour avoir des systèmes en biologique ou en tout cas non polluants. Ils ont planté de la forêt gérée comme il faut sur ces mêmes bassins de captage. Ils ont travaillé très fortement pour identifier les pressions de pollution et réduire ces pressions de pollution. Un simple exemple, c'est quand un forestier, par exemple, ou un agriculteur avait un problème de fuite d'hydrocarbures, même pas très forte, on lui demandait de le signaler, et là, un service s'occupait de venir enlever le sol pollué pour éviter que cette pollution arrive au niveau des captages. Et donc, petit à petit, en prenant tous les problèmes les uns après les autres et de manière très précise et pointue, ils ont réussi à obtenir une eau de qualité. Et si on prend juste le paramètre nitrate, ils sont revenus, alors qu'ils étaient partis d'assez haut, ils sont revenus en plus de 20 ans, je crois, à une eau qui est au niveau des meilleures eaux minérales du point de vue de la teneur en nitrate, quoi.
Pour revenir sur le plateau et l'eau du plateau, il y a déjà des problèmes de qualité d'eau. C'est vrai qu'il y a déjà des sources, des captages dont l'eau est considérée comme non potable.
Si on parle de l'eau potable, c'est un sujet un peu compliqué puisque, effectivement, on a déjà, du fait de l'occupation du sol, d'occupation, on va dire, du territoire par les villages et les bourgs, on avait historiquement un très grand nombre de captages et qui s'adaptaient en fait à la petitesse de la ressource et de la fonction de stockage. Donc on avait des sources qui étaient captées dans chaque village, des bourgs qui captaient aussi. Donc ça a démultiplié le nombre de points, et ce qui a entraîné déjà un problème de gestion de ces captages. Donc aujourd'hui, on a un nombre de captages importants, même si l'État essaie de les réduire, et on a des réseaux aussi de distribution importants. Donc ça, c'est pas neutre, parce que comme on n'est pas non plus très nombreux, ça veut dire que l'eau reste longtemps dans les tuyaux. Comme elle est acide, elle peut attaquer les tuyaux. Donc avant même de parler de l'eau qui arrive au captage, on peut déjà avoir des problèmes rien que liés au transfert et à la distribution de cette eau. Après, si on s'intéresse effectivement à l'eau brute, l'eau qui arrive au captage, on peut avoir dans certains cas des problèmes. Alors le plus fréquent, c'est la bactériologie, c'est-à-dire du fait des pluies très fortes, et ben, lessivage des terrains qui va entraîner des bactéries qui sont présentes dans le sol vers le captage. Et comme on est le plus souvent ici encore, et c'est pas si mal que ça, sur des systèmes où on traite pas ou très peu l'eau, parce qu'elle est globalement bonne, on peut avoir quand même dans un certain nombre de captages des problèmes de bactériologie qui peuvent entraîner, alors c'est pas très grave, mais ça peut entraîner des diarrhées, des choses comme ça, et ça peut être plus grave pour des personnes âgées ou des enfants, parce qu'ils sont plus fragiles. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Après, on peut avoir des problèmes liés aux métaux lourds, comme on est sur du granit et que l'eau est acide, on a naturellement une eau qui peut être chargée en métaux lourds. On parle de plus en plus en ce moment d'ailleurs de l'aluminium qui pose de plus en plus de problèmes dans des captages et qui a une origine au départ naturelle, mais qui probablement est une problématique qui se renforce du fait à la fois des activités locales et probablement aussi sous l'effet des pollutions atmosphériques nationales ou européennes, quoi. Les plus acides viennent impacter nos sols et, pour faire simple, mobilisent peut-être, il y a une étude en cours là, plus l'aluminium que par le passé. On observe des quantités non négligeables d'aluminium dans l'eau. On peut avoir localement des problèmes de pesticides, ça arrive, c'est plus rare, mais on a eu quelques communes sur le parc touchées par des pollutions aux pesticides. Et demain, on pense qu'on en aura aussi de plus en plus du fait de l'utilisation notamment forestière de pesticides. Hein, aujourd'hui, plus ça va, plus à la plantation des Douglas, il est utilisé des insecticides aux trous de plantation ou en pré-traitement. Et ça, ce sont des molécules très, très persistantes et qui peuvent poser des problèmes. Donc ça, c'est un risque pour l'avenir, plutôt aujourd'hui, même si on en retrouve déjà dans certaines rivières. Mais je pense que c'est un risque émergent. Voilà. Et puis, il faut aussi avoir en tête qu'il y a les pollutions locales des activités que nous avons ici, nous tous, localement, mais on réceptionne aussi les pollutions d'autres territoires. Du fait qu'on est parapluie, hein, la fonction parapluie, ça capte l'eau, enfin ça récupère l'eau, mais ça récupère aussi les pollutions qui vont avec. Si je donne juste un paramètre sur l'azote, on sait que il y a une station à La Nouaille de mesure des retombées atmosphériques, et cette station a mesuré qu'en 15 ans, les retombées azotées avaient été multipliées par 4. Ça, c'est juste l'azote, mais on pourrait prendre plein d'autres paramètres comme ça qui peuvent augmenter, quoi. Donc on est aussi, contrairement à l'image d'Épinal qui montre que 1000 vaches, territoire, une île déserte au milieu de la France, on est aussi sous l'effet des pollutions françaises, régionales, nationales et peut-être même mondiales, enfin sûrement même mondiales, quoi.
C'était Vincent Magnet sur Le Plateau qui parle, deuxième des trois parties d'une interview consacrée à l'eau. Nous diffuserons la troisième et dernière partie demain, aux horaires habituels du Plateau qui parle, 8h30, 12h10 et 17h30.